Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin sur France Culture dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie de Monsieur Khalil Karam. Bonjour, cher monsieur. Soyez le bienvenu. Ancien délégué permanent du Liban à l'UNESCO, vous avez été représentant du président de la République libanaise pour la francophonie et vous avez été aussi chargé d'affaires auprès du Saint-Siège. Donc nous allons évoquer avec vous le Liban ce matin, bien entendu, et plus précisément un ouvrage magnifique que vous venez de sortir avec un co-auteur qui s'appelle Charbel Matta et qui est professeur, je crois, à Bordeaux. Le titre du livre « La mission jésuite de Gazir, 1843-1905 » avec un sous-titre « Le retour de la Compagnie de Jésus au Liban ». Alors ma première question serait celle de la genèse de cet ouvrage. Comment l'idée vous est venue ?
En fait, cet ouvrage représente pour nous un petit peu les débuts de la francophonie institutionnelle au Liban. Parce que ce séminaire de Gazir qui a commencé en 1843 à enseigner juste pour ceux, en tant que séminaire, pour ceux qui allaient devenir prêtres, et ceci à la demande de tous les patriarches d'Orient. Parce que les jésuites et le pape ont été très sensibles à une lettre conjointe faite par tous les patriarches d'Orient qui voulaient remettre à niveau l'enseignement de tout le clergé d'Orient. Le départ fut très très bien avec le retour de ces jésuites en 1843, et c'était des jésuites missionnaires qui avaient choisi les meilleurs d'entre eux pour venir en Orient. C'était pas évident de venir en Orient à l'époque parce que il y avait pas assez d'argent, la Compagnie de Jésus n'était pas dans ses meilleurs jours, vu les législations de l'époque. Bref, malgré toutes les vicissitudes et les difficultés, ils ont réussi. Et ce séminaire a créé, si vous voulez, il a enseigné à toutes ces générations qui sont devenues l'élite, qui a gouverné cette partie du monde et qui a créé, entre gens d'église et civils, le Grand Liban, l'État du Grand Liban en 1920. Il y avait une élite qui était déjà prête à prendre les rênes du pouvoir.
Alors nous fêtons le centenaire cette année du Grand Liban, mais avant de revenir sur ce temps présent, peut-être un petit peu d'histoire. Je crois qu'il ne s'agit pas de la première implantation des jésuites au Mont Liban.
On l'appelle, nous, la deuxième mission jésuite, parce que la première mission jésuite, elle est venue à l'appel du patriarche maronite en 1555. D'ailleurs, c'est dans la préface du père général Arturo Sosa qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage. En 1555, le patriarche Arrazi Maronite a envoyé une lettre à Saint Ignace lui demandant d'envoyer une mission au Liban et qu'il lui offrirait un monastère dans la région chrétienne du Liban. Ce n'était pas possible du point de vue logistique parce que c'était les débuts de la Compagnie de Jésus. En fait, ils sont arrivés une cinquantaine d'années plus tard et ils sont restés jusqu'à ce que le pape annule la Compagnie de Jésus. Et ce n'est qu'au début du 19e qu'on a repris les correspondances entre les différents patriarches, et ils sont revenus la deuxième mission en 1831. Ils ont commencé à se réinstaller en 1834, et leur installation physique dans une institution, c'était en 1843.
Alors vous parliez, monsieur l'ambassadeur, de francophonie au début de notre conversation. Je crois que les jésuites qui ont précédé l'arrivée de ces jésuites français, donc à partir de 1843, étaient plutôt de langue italienne.
C'est vrai. Les premiers étaient italiens. Parce qu'en Italie, les jésuites avaient, paraît-il, plus de facilité de mouvement et plus de moyens. Mais les autorités françaises et le consul de France ont pris la chose très au sérieux et ils les ont convaincus à leur manière, à leur façon, de retourner en Italie, faire autre chose. Et c'est comme ça que le séminaire est devenu francophone.
Alors c'est une région qui est chère à votre cœur, je crois que votre famille est originaire même de cette partie-là du Liban. Nous sommes au nord de Beyrouth, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les paysages et voilà de ce dont il s'agit, des villages chrétiens de la montagne.
En fait, la description de cette région s'est faite par les voyageurs. Par exemple, à côté de ce, malgré le fait que Lamartine n'a jamais visité ce village à cause de la mort de sa fille, il a été obligé d'écourter son séjour. La vallée à côté du séminaire des jésuites, les jésuites, quand il est décédé, ils l'ont appelé vallée de Lamartine. Donc tous ces voyageurs sont passés par là. Celui qui a habité Gazir, c'est Ernest Renan. Et c'est en août 1861 qu'il a finalisé à Gazir la vie de Jésus. D'ailleurs, c'est dans sa préface de la vie de Jésus, il le dit bien, que lui et sa sœur Henriette, ils ont été dans ce village pour l'été 1861, et il a fini son ouvrage le plus controversé, la vie de Jésus. Et maintenant, on a créé dans ce village, en face du séminaire jésuite, un jardin et une statue à Ernest Renan, et la maison qu'il a habitée l'été 1861 est toujours intacte, comme elle l'était cet été-là. Et nous avons aussi compris par les archives et les dières des jésuites qu'il y avait au départ une relation un peu distante avec Renan, mais très rapidement, il a commencé à venir assister aux pièces de théâtre jouées par les séminaristes. Les jésuites lui ont offert l'encre et le papier pour ses écrits. Bref, ils ont fini copains.
Alors cet ouvrage, je le disais au début de notre échange, est un ouvrage illustré. C'est absolument admirable. Alors je rappelle l'éditeur, hein, c'est les presses de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, voilà que nous connaissons bien pour la qualité de son enseignement. Un ouvrage qui est disponible dans le réseau des librairies de la Procure. Beaucoup d'illustrations. Comment avez-vous trouvé ce fonds? Est-ce qu'il y a des archives au Liban? Est-ce que c'est le professeur Mata, je crois, qui avait des archives personnelles liées à ce fonds?
Le professeur Mata est devenu connu en France quand il a exposé ses centaines de cartes postales du 19e siècle dans le cadre des Jeux de la Francophonie qui se sont tenus à Beyrouth en 2009. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert moi-même cette magnifique collection, et Monsieur Mata est comme moi, gazirien d'origine. Et c'est là qu'a germé l'idée, de faire un mémorial pour les jésuites à Gazir, parce que les jésuites ont vraiment façonné toute cette région, et même, on peut dire sans aucune prétention, qu'ils ont donné l'image du Liban moderne, post-indépendance, si vous voulez. Donc ça, c'était les débuts. Et ensuite, ça a été étoffé par la magnifique collection de la Bibliothèque orientale et des archives des jésuites du Liban, les archives jésuites de Vanves en France, les archives jésuites à Rome, et même dans les familles des pères, parce que les pères, ils échangeaient une correspondance très féconde avec leur famille, en France et ailleurs. Donc, on a retrouvé tout ça. Il y a eu entre 1500 et 1600 documents et photos. On a pu trier 330 qui étaient les plus expressives. Et grâce à la technologie moderne, on les a remises en état. Et on a ce magnifique résultat que vous avez devant vous.
Un travail de recherche qui vous a pris combien d'années depuis la première découverte de ces photos? 8 ans.
Huit, mais c'est pas pour écrire 8. C'était surtout pour la recherche de documents, photos, documents écrits, etc. Pour écrire le texte, pas 8 ans.
Et je crois qu'il y aura un autre volume.
Il y aura un tome 2. Il y aura un tome 2 qui est plus fourni sur le plan des recherches historiques et littéraires.
Alors pour vous, c'est une œuvre monumentale, c'est une œuvre qui permet de comprendre l'émergence de nouvelles élites par rapport à cette proclamation du Grand Liban donc en septembre 1920. Qui sont ces élites à l'époque qui ont été formées chez les jésuites ?
Vous savez, il y a eu beaucoup de leaders libanais qui sont passés par là. Au départ, il y avait un grand dilemme chez les jésuites parce qu'ils ont été inondés de tous les fils des chefs ottomans qui voulaient envoyer leurs jeunes ottomans se faire instruire au séminaire jésuite du Mont Liban. C'était illogique, mais c'était comme ça. Ils avaient tellement bonne réputation de rigueur, de science, etc., que toutes ces familles ont envahi le séminaire. Ce qui fait qu'il y a une décision de dire non, on va revenir à la formule séminaire. Et c'était pas inintelligent parce que c'est comme ça qu'ils ont arrêté ce flux. Parce que sinon, il n'y avait plus de place ni pour les séminaristes, ni pour qui que ce soit. Donc, ils ont arrêté ce flux de jeunes ottomans qui voulaient se faire instruire, mais ils ont gardé de très bonnes relations avec les autorités ottomanes pendant assez longtemps. Et quand les dignitaires ottomans venaient au Mont-Liban, ils avaient une visite toujours incontournable au séminaire des jésuites. Il y avait deux visites qui étaient incontournables. C'était le patriarcat maronite et le séminaire des jésuites. Et bon, c'est jusqu'au jour où les relations se sont détériorées avec l'ascension des jeunes turcs qui ont vraiment, dans l'analyse historique de l'époque, n'ont pas fait que de mauvaises choses pour l'Empire et surtout pour tout ce qui est tolérance au niveau de l'Empire ottoman. Alors, donc au niveau des élites...
Pardon.
Oui, excusez-moi.
Non, au contraire, continue.
Au niveau des élites, donc ils ont formé des élites, par exemple, comme ça de mémoire, les premiers chefs du Liban libre ont tous été formés chez les jésuites. Les drogmans du sultan, c'était des gens formés chez les jésuites, comme Michel Eddé, le grand-père du ministre défunt Michel Eddé, Auguste Pacha Adib, le patriarche Houayik. Il a eu la chance d'être formé par de très grands pères jésuites entre 1859 et 1866, les 7 années qu'il a passées au séminaire. C'est ce qui a vraiment formé sa personnalité extraordinaire, qui a fait qu'il a pu, par l'argumentation, convaincre Georges Clemenceau, anticlérical en principe, d'être convaincu par un prélat oriental, tout de rouge vêtu, de l'importance de créer le Liban dans ses frontières actuelles, ça veut dire le Grand Liban. Et par la suite, c'est le général Gouraud qui était en charge qui est chargé par Clemenceau avec une lettre magnifique. Il lui dit « Nous commençons avec vous un projet de rayonnement de la France à l'est de la Méditerranée. » Vous imaginez l'importance stratégique du projet. Donc, Georges Clemenceau, qui était médecin, anticlérical, tout ce que vous pouvez imaginer, donc, c'était vraiment pas la personne qu'il fallait pour avoir comme partenaire, et c'est lui qui a signé par écrit la création du Grand Liban. Et quand il a chuté aux élections, Alexandre Milran, son successeur, a envoyé une lettre disant que je m'engage à suivre les engagements de mon prédécesseur. Donc, le patriarche Houayik, c'est le père du Grand Liban. Gouraud, c'est lui qui l'a instauré officiellement au nom de la France le 1er septembre 1920. C'est là où vous aviez dit que nous sommes en pleine année du centenaire. Et à côté de Gouraud, chose qu'on ne trouve pas dans les manuels d'histoire, le vrai conseiller de Gouraud et conseiller honnête, c'était le père Claudius Chanteur. Quoique français et d'origine celte et gauloise, mais il était très, pour lui, c'était très important de travailler dans l'intérêt du Liban, tout en gardant à l'esprit les intérêts de la France, etc. Mais c'était dans l'intérêt du Liban, et c'était le vrai conseiller, parce que c'est un monsieur qui a vécu un demi-siècle en Orient, il connaît par cœur tous les problèmes de Liban, de Syrie, d'Irak, etc. Donc c'était un conseiller très utile au général Gouraud dans ces années très difficiles, parce qu'il y a eu la révolution en Syrie, etc. Bref. Et là, permettez-moi de vous dire que le patriarche Houayik n'avait pas que des oppositions internes pour le Grand Liban. Mmh. À Paris, il a eu à faire face à des contrariété au niveau de l'Assemblée nationale qui était sous l'influence, je suis obligé de le dire, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui préférait une grande Syrie pour les échanges commerciaux, pour tout ça. C'était beaucoup plus intéressant pour eux d'avoir une grande Syrie qu'un tout petit Liban minuscule, etc., même si s'il est à visage occidental.
Alors nous sommes ce matin avec M. Khalil Karam pour évoquer un magnifique ouvrage, La mission jésuite de Gazir, 1843-1965, qui vient d'être publié aux presses de l'Université Saint-Joseph. 1965, la fermeture du séminaire ?
Non. En 1965, les jésuites ont offert pour 0 franc, 0 centime, le séminaire pour devenir séminaire patriarcal maronite. Et il l'est toujours. Et c'était une action très généreuse de la Compagnie de Jésus, parce que ils pensent que s'ils sont là, c'est à la demande du patriarcat maronite, et c'est comme ça qu'ils ont offert gratuitement le séminaire à la au patriarcat maronite pour qu'il en fasse son séminaire central.
Un autre acte important, c'est la création du sanctuaire de Notre-Dame de Harissa.
Oui.
Faut-il le préciser, un lieu devenu phare pour ceux qui peuvent aller et qui ont la chance de connaître Beyrouth. Dans quel contexte cette création s'est-elle réalisée ?
C'est un père jésuite d'origine suisse, le père Catin, qui était derrière cette idée lumineuse. Et quand vous voyez, par exemple, maintenant, avant le corona, le nombre par milliers de pèlerins iraniens, chiites, qui viennent faire un pèlerinage à Notre-Dame du Liban, à Harissa, ça vous fait réfléchir à beaucoup de choses. Donc, ce genre de sanctuaires, c'est des sanctuaires fédérateurs entre communautés, entre religions, etc. Et dans l'Orient en ébullition, c'est une chose très importante par les temps qui courent. Donc c'est vraiment un sanctuaire libanais beaucoup plus que chrétien. C'est vrai que c'est Notre-Dame du Liban, mais tout le monde vient ici. Et surtout au niveau de la communauté chiite, pour nous, ce fut quelque chose de, pour nous, c'est très positif de voir des chiites venir en milliers par an en pèlerinage à Notre-Dame. Personne ne les oblige à le faire. Ils viennent de leur propre chef et avec grand enthousiasme.
Alors je sais que pour vous la question des chrétiens d'Orient est importante, Monsieur Karam, et je sais que vous êtes un militant du fait que les chrétiens doivent rester.
Bien sûr, je clame ça partout, même avant la guerre de Syrie. Vous savez, il y a eu la guerre d'Irak, et la guerre d'Irak a vu une hémorragie extraordinaire de chrétiens originaires de ce pays, où il y a eu les premières églises d'Orient. Donc, les chrétiens d'Orient doivent rester en Orient. Ils sont à la base de cette région. C'est eux les vrais habitants de ces régions. Donc quand je vois qu'il y a certaines voix en Occident qui disent qu'il faut aider les chrétiens à venir s'installer en Europe, je trouve ça, c'est vraiment de la folie. Je vous ai dit avant de rentrer en studio que pour faire émigrer une famille chrétienne d'Orient en France, disons, c'est exactement le même coût que de mettre en état un village chrétien en Syrie pour un toit, une petite cuisine très simple et une petite salle de bain, le minimum pour survivre, et mettre en état un dispensaire, une petite école et l'église. On n'a pas besoin de plus. Tout ceci là-bas coûte moins que l'installation d'une famille chrétienne d'Orient en France. Donc ça résume tout le problème. Gardez-le là-bas. Au lieu de faire des problèmes ici, vous allez avoir des problèmes internes, des problèmes d'implosion, d'explosion, tout ce qu'on peut, d'intégration, tout ce qu'on peut imaginer comme problème en amenant tous ces gens ici. Leur place normale et naturelle, c'est chez eux.
Monsieur Khalil Karam, merci d'être venu jusqu'à nous.
Bon dimanche à tous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, La mission jésuite de Gazir, 1843-1965, le retour de la Compagnie de Jésus au Liban, aux presses de l'Université Saint-Joseph. Je voudrais remercier pour la réalisation et la technique de cette émission Dany Journaud, Stéphane Touvenin et Claire Poinsignon. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.